Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur le Mug. Nous sommes le mardi 2 novembre déjà, et c'est l'émission Le Mug. Je suis ravie de vous retrouver, c'est Marion. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez passé un bon week-end et pour ceux qui ont eu la chance de profiter du week-end prolongé, d'avoir bien pu vous reposer. J'espère que vous allez bien, je regarde un petit peu les messages, merci Sandokan pour ton abonnement, 13e mois d'abonnement, waouh, pas mal, la classe, hello à toi. Salut Samuel, salut Oleg, salut Alessandro, salut Poppy, salut Polaire, salut Erlad, mon frère qui est dans la chatroom, salut Jamise, salut Distiri, salut Sir Newt, j'espère que vous êtes en forme ce matin, je suis ravie de vous retrouver, il fait pas beau mais du coup on va apporter le soleil dans le chat ce matin pour se motiver et passer un bon moment, je l'espère, ensemble. Salut et merci à toi Déclic pour ton abonnement, 11e mois d'abonnement, trop classe, merci Thomas Bibli aussi également pour ton 12e mois d'abonnement, bah dis donc, il n'y a que des fidèles ce matin dans la chatroom, ça fait trop plaisir. Bon, c'était quand même un week-end chargé, il faut se le dire, en tout cas en termes d'actualité Twitch, c'était un grand week-end. Alors de quoi va-t-on parler ce matin? Vous l'avez vu un petit peu dans le titre de l'émission et les hashtags, on va parler évidemment de The Event, généralement, vous allez me dire, vous connaissez l'événement, donc je ne vais pas vous apprendre la vie là-dessus, mais je pensais que c'était quand même important qu'on revienne un petit peu sur les événements marquants de ce week-end-là, et aussi de célébrer un petit peu quand même cet effort collectif qui a été fait durant ces 3 jours. Donc, on en parlera un petit peu ensemble. Vous me direz d'ailleurs si vous avez un peu suivi l'événement de votre côté. Et puis, on commencera les articles tech par une petite news qui concerne Fortnite. Donc Epic Games en Chine qui finalement va jeter l'éponge sur la version chinoise qu'ils étaient en train d'explorer pour le jeu Fortnite. Voilà, ils jettent l'éponge. On essaiera de comprendre un petit peu pourquoi, ou en tout cas de voir un peu quelles sont les informations qu'on a. Voilà. Ensuite, on parlera encore de jeux, mais cette fois-ci, on parlera de la société Roblox. Roblox qui était un petit peu en galère, finalement, puisqu'ils ont subi une coupure pendant plusieurs jours de leur plateforme, ce qui, évidemment, a généré la colère des fans et des personnes qui développent des jeux sur la plateforme Roblox. Donc voilà, on reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé. On parlera aussi de Tesla. Tesla qui va ouvrir son réseau de superchargeurs, notamment il va commencer en Europe. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc on en parlera un petit peu ensemble, sous quelle modalité ça va se passer, etc. Donc moi je trouve ça super intéressant. Je suis en train de réaliser que j'ai pas l'article que j'avais vu ce matin, donc je vais vous le retrouver très rapidement. Hop, il doit être par là, parce que je l'ai mis, voilà, parfait. Je copie le lien pour l'avoir sous la main, au bon endroit. Hop, je me le mets là. Hop. Voilà, excusez-moi, je me préparais, j'avais un article en anglais et un article en français qui était un peu complémentaire. Et puis on parlera aussi de Pinterest, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Pinterest. Pinterest continue à se développer un peu plus aussi sur le shopping en ligne avec sa plateforme et notamment maintenant le service Pinterest TV. Donc on verra un petit peu de quoi il en retourne et où ils en sont aujourd'hui. Et puis on parlera aussi de Twitter et ces fameuses stories qui restent en haut de votre flux d'actualité et qui vont pouvoir être a priori enregistré, sauvegardé. Donc ça, voilà, on fait un pas de plus vers l'accès au contenu, potentiellement transformé facilement des stories en podcast, pourquoi pas. Et puis on terminera les Actu Tech, pardon, avec Boston Dynamics. Alors attendez, je vérifie un petit truc. Hop. Oui, non, c'est bon. Hop, excusez-moi. Je profite pour peaufiner tout ça. On terminera avec une danse remarquable et remarquée du robot de Boston Dynamics, Spot, qui va reprendre les pas de Mick Jagger sur un titre des Stones. Voilà, petit hommage émouvant suite au décès du batteur des Stones, dernièrement, Charlie Watts. Voilà, donc on verra un petit peu un extrait de la vidéo. Je ne pourrais pas tout vous montrer parce que je n'ai pas envie qu'on se fasse éjecter. Non plus sur la plateforme, mais mais voilà, on verra ensemble. Et puis de toute façon, on pourrait retrouver le lien évidemment dans les articles Naotech sur Flipboard. Sachez qu'on met tous les articles et même plus encore toutes les actualités qu'on juge assez intéressantes, on les met à disposition dans le Flipboard Naotech. Donc vous pouvez suivre quand il y a un article qui vous intéresse particulièrement, vous pouvez retrouver les liens très très facilement. Donc voilà un petit peu pour le sommaire de ce matin. On terminera aussi, parce que mine de rien, ce week-end, c'était à la fois un événement majeur sur Twitch, mais c'était également mon anniversaire. Mais pas que, c'était aussi Halloween. Halloween, le 31 octobre, dimanche. Donc, j'espère qu'il y en a qui se sont amusés, qui en ont profité, soit des grands-enfants, soit avec leurs petits-enfants. Voilà. Et donc, on parlera du coup d'une série, moi, que j'aime particulièrement, qui est particulièrement décalée et rigolote, What We Do in the Shadow. On en profite puisque la saison 3 est sortie ce mois de septembre. Donc on en parlera brièvement ensemble sans spoiler. Voilà. Voilà, donc je vous propose de commencer sans plus tarder, tranquillement, avec le Kawa. Et voilà, donc on commence. Merci beaucoup pour les messages dans la chatroom. C'est mon petit moment douceur du mardi matin avec vos messages tout gentils dans la chatroom. Merci à tous. Voilà, donc on commence tranquillement par prendre des nouvelles du coup de Epic Games. Epic Games qui était en train en fait d'expérimenter et de développer en partenariat avec la société Tencent en Chine une version justement altérée de leur jeu Fortnite qui s'appelait Fortress Knight. Donc comme je vous le disais, créé en collaboration avec Tencent, qui était donc prévu d'avoir des changements assez conséquents par rapport à la version américaine du jeu, qui permettait d'inclure des outils qui allaient limiter combien de temps une personne allait pouvoir passer à jouer au jeu. Il y avait également des fonctionnalités, ils avaient en même temps, enlevé les fonctionnalités avec des achats in-app, etc., qui est quand même le cœur voilà, quand même une grosse partie du jeu Fortnite. Et tout ça, évidemment, en accord avec les régulations en vigueur sur le sol chinois. Voilà, notamment, il y avait une loi qui était passée fin août qui empêchait les personnes plus jeunes, enfin, sous 18 ans, à moins de 18 ans, de passer plus de 3 heures à jouer à un jeu vidéo par semaine. C'est pas par jour. Parce que je vous entendais venir ici, là, mais c'est pas par jour. Ah, je vois qu'on a un... j'espère que je vous ai bien partagé l'emoji, j'ai voulu cliquer. Je sais pas pourquoi on est dans le train de la hype, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai rien dit de particulier. Mais, ah voilà, vous avez eu droit à des emojis, c'est cool. Ah, il y a des emojis trop mignons. Il y a des espèces de loutres, non? Je sais pas, ça ressemble à des loutres. Il y a un chat. Je sais pas, c'est quoi, c'est un chat ou une loutre? Hype hands, trop classe. Bref, j'arrête de me concentrer sur les emojis qu'on a gagnés. Mais voilà, donc en effet, il y avait une loi qui est passée qui limitait le temps passé sur les jeux vidéo à 3 heures de jeux vidéo par semaine pour les personnes de moins de 18 ans, ce qui est quand même assez limitant, hein, on va quand même le dire, 3 heures par semaine. On peut vraiment, à la place d'Epic Games, se poser la question si ça vaut le coup de finalement passer du temps à développer un jeu vidéo qui est altéré, où on va gagner moins d'argent, parce qu'il n'y a pas ces fonctionnements d'achat in-app, et en plus, voilà, qui ne va pas forcément retenir ou avoir la rétention auprès des joueurs à plus de 3 heures par semaine. Donc c'est quand même assez limitant. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont informé qu'ils arrêtaient, qu'ils jetaient l'éponge à partir du 14 novembre, après 2 ans d'expérimentation à essayer de développer cette version altérée et qui aurait correspondu aux standards et aux régulations chinoises du jeu Fortnite. Voilà, donc c'est pas la première société à arrêter finalement sa présence et son business sur le sol chinois, hein, et potentiellement ce ne sera pas la dernière. Rappelez-vous, hein, il y a évidemment Microsoft avec LinkedIn qui était parti, il y avait également d'autres services, donc voilà, Epic Games de nouveau, nouvelle société tech qui quitte le sol chinois. Mais venons-en au cœur du sujet ce matin et profitons-en pour parler un petit peu de l'événement phare ce week-end, évidemment The Event 2021 avec la crème du streaming français qui s'est retrouvée ensemble pour un effort collectif impressionnant pour récolter des dons pour l'association Action contre la faim. Donc encore une fois, un petit peu de contexte, hein, c'était la 6e édition déjà. Enfin voilà, moi, pour tout vous dire, hein, je connais pas Twitch depuis si longtemps que ça. Ça doit faire, je sais pas, 3 ans, 3-4 ans qu'on en entend vraiment parler. Donc, se dire que c'est déjà la 6e édition de ce marathon caritatif organisé en France, c'est quand même assez incroyable. Donc organisé par Zerator et Dash. Ils ont rassemblé une cinquantaine de streamers français, hein, pour s'unir ensemble, chacun sur ses chaînes, pour faire du live pendant 3 jours, un week-end prolongé, et tenter de rassembler des dons et de relever le défi de l'année précédente en 2020, où ils avaient déjà amassé 5,7 millions d'euros pour Amnesty International en 2020. Et donc cette année, ils ont explosé les records parce qu'en fait, ils ont presque doublé finalement le record qu'ils avaient fait en 2020 avec plus de 10 millions d'euros. Donc c'est quand même il faut quand même reconnaître un petit peu l'impact qu'ils ont pu avoir, et c'est assez formidable. Donc ils ont à la fois explosé le record de levée de dons, mais également de viewers simultanés, de personnes qui regardaient le live en simultané sur Twitch, parce qu'ils ont dépassé du coup le million justement à la toute fin de l'édition de ce marathon caritatif. Ils ont dépassé le million de viewers simultané sur The Event, donc c'est vraiment impressionnant. Et rappelez, donc pour ceux qui avaient suivi le lancement de The Event, ils avaient notamment commencé en 2016, l'édition de 2016, ils avaient levé 170 000 euros en mars 2016 pour Save the Children à l'époque. Voilà, donc on a quand même pas mal évolué. Ce qui était sympa aussi cette année, c'est que pour montrer et marquer le coup un petit peu de l'ampleur de l'événement The Event, ils avaient notamment organisé la veille du début du week-end, hein, jeudi soir, ils avaient organisé un concert pour fêter l'ouverture de l'événement, avec notamment la streameuse Litty Big Whale, le youtubeur musique Pivi Novak. Ils avaient prévu pas mal d'arrangements ensemble sur pas mal de titres. Il y avait également le trio Lege ou Leej, je connais absolument pas, donc vous pouvez carrément rigoler, et les rappeurs Kikessa et Fianso. je ne connais absolument pas non plus. Donc allez-y, corrigez-moi si je charcute leur nom et je m'en excuse. Voilà, qui se sont donc succédés sur la scène du Palais des Congrès de la Grande Motte. Voilà, donc pas mal de choses hein, qui se sont passées. Donc en 2020, pour un petit peu comparer un peu les performances sur les différentes années, en 2020, The Event avait dû attendre le début de la soirée du samedi pour atteindre le premier million d'euros récoltés. Là, cette année, 5 heures seulement auront suffi pour rassembler le premier million. Voilà, et puis sur cette édition 2021, on voit que The Event, en tout cas les organisateurs et l'événement, essayent de brasser de plus en plus large. Alors évidemment, le cœur reste du streaming de jeux vidéo, mais on va retrouver également des activités sportives, des quiz, des activités artistiques, etc. Donc c'était quand même assez sympa. Il y avait aussi, pour ceux qui ont suivi, on en a déjà parlé cette année, évidemment le présentateur Samuel Etienne, qui avait fait son arrivée sur Twitch, remarqué, qui est venu ici pour animer Question pour un streamer, petit clin d'œil évidemment à Question pour un champion qu'il anime. Voilà, donc ça c'était assez rigolo. Il y a eu également, à la suite de cette émission, un karaoké, donc ça c'était le samedi soir, hein. Pour ceux qui n'ont pas complètement suivi, il y a eu donc le samedi soir le question pour un streamer, et puis après il y a eu donc le karaoké avec toutes sortes de titres, on va dire, de Queen à Sous le vent de Garou et Céline Dion. Donc autant vous dire que c'était quand même assez varié, mais c'est ça qui rend un karaoké assez rigolo justement. Voilà, donc on a eu pas mal de choses, et du coup à ce moment-là, hein, à la fin du samedi soir, ils avaient récolté 2,6 millions d'euros. Mais c'est surtout, et sans vraiment grande surprise, dans le sprint final du dimanche après-midi, que tout s'est accéléré finalement. Et donc on a eu pour chaque million des cassages de piñata qui se sont succédés à chaque nouveau million d'euros atteint. Voilà, on a eu aussi Squeezie qui a marqué le coup puisqu'il n'a pas pu être sur place et participer à The Event cette année, mais du coup il a fait un don remarqué sur le live de Inox Tag, que certains nomment comme le digne successeur de Squeezie. Voilà, mais justement Inox Tag, on va venir en parler, qui s'est fait remarquer pour d'autres choses liées au live qui s'est déroulé justement ce week-end. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, donc InoxTag est un des streamers stars, voilà, une des grandes stars des différents de la cinquantaine des streamers qui étaient sur place. Évidemment, le but de The Event, c'est de générer des dons, de motiver les dons, hein. Donc il y a plein de méthodes utilisées pour attirer les viewers et donc des dons potentiels, parce que plus on a de viewers, plus il y a de chances qu'il y ait de dons, et chaque streamer lors du The Event va définir des paliers, des objectifs à atteindre, avec des espèces de petits challenges, des défis à chaque palier atteint qu'il s'était fixé. Voilà, donc le but, c'est chaque streamer évidemment va essayer d'amasser des dons, récolter des dons pour ensuite l'événement The Event. Et donc du coup, ce qui s'est passé ici pour InoxTag, c'est que tout simplement, il a fait appel à l'actrice mexicaine Andrea Pedrero, excusez-moi, qu'il avait déjà rencontré lors d'un voyage en Amérique centrale et qu'il avait ensuite partagé la rencontre sur YouTube. Et donc du coup, il l'a invité à venir venir et participer à l'événement de The Event. Et lors de l'arrivée justement de l'actrice mexicaine que certains surnomment la sirène, alors je sais pas d'où vient ce surnom, mais en tout cas elle a été pas mal nommée comme la sirène. C'est vrai que lorsqu'elle est arrivée et lorsqu'ils ont fait leur espèce de petit sketch interview ensemble, ils ont carrément explosé les records de viewers simultanés, puisque uniquement seul sur le live d'InoxTag, il y avait 453 000 viewers simultanés. Donc évidemment, Là, InoxTag a été, entre guillemets, célébré comme celui qui arrivait à faire venir, en effet, les viewers. Alors, à savoir que l'actrice mexicaine est quand même très connue dans son pays, donc c'est tout à fait possible qu'elle ait, je me suis pas renseignée là-dessus, mais qu'elle ait communiqué aussi à sa communauté comme quoi elle allait interagir sur The Event, qui a ramené, évidemment, les viewers sur le live d'InoxTag, ce qui serait assez logique. Donc, elle a débarqué vers 18h, c'est là que, du coup, le compteur de viewers c'est emballé et donc du coup ce qu'il y a il y a eu des propos qui ont choqué. Pourquoi? Parce que du coup InoxTag a joué son rôle de jeune homme de 19 ans, son rôle entre guillemets, c'est le rôle que lui a choisi d'adopter, en tenant des propos assez déplacés finalement envers l'actrice mexicaine. Alors en plus il a mis en avant la différence d'âge, elle a 29 ans, il a 19 ans, voilà, je suis encore pousseau, c'est moi qui vais la soulever, sous-entendu il va se la faire. Alors là-dessus elle a compris, parce que justement elle dit ah, tu parles de faire l'amour, etc., etc., donc sachant que l'actrice mexicaine ne parle pas français, donc qui parlait anglais ensemble, mais ce qui était un petit peu choquant, c'est que voilà, il a plaisanté, il parlait en français avec un anglais approximatif, bon ça c'est une chose, mais surtout il a essayé de lui faire dire des propos complètement déplacés, comme quoi il avait une grosse bite, etc., dans les mots de l'actrice, enfin dans la bouche de l'actrice mexicaine, ce qui était évidemment choquant, surtout que voilà, ça a encouragé une communauté particulièrement jeune à avoir des propos déplacés dans le chat, qui lui manquaient de respect, misogyne, sexiste, voilà, donc ça c'est une chose. Ce qui est un petit peu gênant, c'est que l'interview qui s'est passée avait l'air d'un interview, c'est-à-dire qu'on n'avait pas l'impression que c'était très 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 préparé, mais plutôt spontané, et ça mettait un petit peu en avant le fait que l'actrice mexicaine ne parlait pas français, qu'elle ne comprenait pas ce qu'InoxTag disait et combien les propos pouvaient être déplacés, et donc c'était humiliant finalement pour cette actrice qui ne parlait pas la langue française et pour qui voilà on tenait des propos à caractère sexuel, donc qui objectifiait la femme et qui tenait voilà des propos sexistes et misogynes et qui a encouragé un petit peu cette communauté dans les commentaires à se défouler, ce qui était un peu choquant, ce qui n'a pas eu de rappel à l'ordre non plus d'InoxTag. Voilà, après c'est très compliqué, il faut le reconnaître, c'est très compliqué en live, vous voyez, je ne lis absolument pas vos commentaires actuellement. Et donc là-dessus, c'est une chose, il s'est passé ça, etc. Et de l'autre côté, on a une streameuse française qui était en train de streamer en live, Ultia, qui s'est exprimée, parce qu'elle voyait ce qui était en train de se passer, et elle s'est exprimée sur le live en se disant c'est incroyable d'applaudir une personne tout simplement parce qu'il arrive à recueillir 400 000 viewers en simultané, mais il utilise l'humiliation, le sexisme et la misogynie pour parvenir à ses fins. Et donc, est-ce que finalement, c'est une méthode que l'on va employer pour avoir 400 000 viewers, même si l'action derrière, le but derrière est louable vu que c'est recueillir de l'argent, mais est-ce que finalement, on veut utiliser n'importe quelle méthode correcte ou pas pour aboutir à ses fins. Et donc voilà, donc elle s'est exprimée et elle a exprimé son désaccord. Moi, j'ai vu la vidéo, vous pouvez trouver les extraits facilement sur Twitter, sur les articles qu'on vous a mis sur Naotech, etc. Elle a exprimé son désaccord. Voilà, donc voilà. Et honnêtement, pour avoir vu la vidéo, j'étais aussi choquée qu'elle. Voilà, c'est dit, j'étais aussi choquée qu'elle, j'ai trouvé ça absolument pas correct, voilà, c'était pas rigolo, etc. Donc c'est une chose. Le problème, et le fond finalement du problème, c'est qu'après avoir exprimé son désaccord et le fait qu'elle était choquée de cette méthode-là, finalement les fans et la communauté d'InoxTag est venue harceler finalement Ultia, la streameuse française, qui je nous rappelle n'était pas l'actrice mexicaine hein, finalement, c'était la streameuse française qui a exprimé son désaccord, sont venus la harceler sur son compte Twitter et sur Instagram avec des menaces de mort, de viol, etc. Donc c'est ce qu'on appelle du harcèlement, hein, très très clairement, qui est interdit par la loi, je pense que c'est important de le rappeler quand même, à n'importe quel âge, voilà, c'est interdit, et donc elle s'est fait insulter, menacer, ce qui n'est quand même pas rien. Et donc tellement harcelée que finalement elle en est venue à passer en privé son Twitter et même à limiter également son Instagram. Donc voilà, donc c'est un petit peu triste. Alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut quand même le reconnaître, il y a eu InoxTag qui est venu sur le live d'Ultia présenter certaines excuses. Sur son compte Twitter, il a appelé, il a dit que c'était pas la peine de s'embrouiller pour un petit détail comme ça. On peut argumenter que humilier une femme en direct, c'est pas forcément un petit détail, mais bon, il a dit qu'il fallait pas, en effet, monter la chose de cette manière-là. Il a pas non plus fait un appel au calme très très clair dédié à sa communauté, mais bon, ça, voilà, il a quand même fait un tweet. Et en fait, juste ce qui est dommage, moi, vraiment, ce que je regrette, c'est que The Event, c'était quand même un événement fondamentalement positif, où on voulait vraiment aller vers de la bonne ambiance et célébrer cet effort collectif, et finalement, qui a été quand même, il faut le dire, entaché par le fait que quand une femme montre son désaccord sur les méthodes de live d'un collègue, elle va être la cible d'un harcèlement redoutable qui va la rendre silencieuse, la censurer, l'encourager à faire de l'autocensure, et ça c'est quand même assez dramatique que des femmes aient recours à de l'autocensure finalement sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas normal, voilà. Et c'est on devrait quand même pouvoir avoir la liberté d'exprimer son désaccord. Il n'y a pas eu d'insulte ni de la part d'InoxTag ni de la part d'Ultia l'un vers l'autre, ils se sont exprimés en plus ensemble. Maintenant on doit pouvoir quand même avoir ce genre de désaccord sans que l'un ou l'autre soit cible de harcèlement, voilà. Je dis ça, c'est comme ça. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Et ça, le fait d'avoir ce système de harcèlement dès que quelqu'un est en désaccord, ça encourage cette atmosphère toxique qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. C'est juste dommage. Voilà. Donc voilà un petit peu l'événement qui a fait un peu le bad buzz finalement autour de The Event. Voilà, après Ultia s'est exprimée, elle a eu pas mal de messages de soutien de ses collègues, etc. Mais mine de rien, c'est quand même elle qui en est venue à devoir limiter ses réseaux sociaux parce qu'elle est quand même encore en train d'être harcelée. Donc ça, c'est quand même assez lamentable. C'est le harcèlement en général qu'il faut condamner, c'est pas les célébrités. En effet, on peut tout à fait, et en gros c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu une discussion entre les deux streamers en disant en quoi c'était gênant d'avoir cette espèce de sketch, parce qu'après, a priori, il semblerait que l'actrice mexicaine et InoxTag avaient parlé, s'étaient mis d'accord sur cette espèce de sketch, sauf qu'en fait finalement, quand tu le vois en termes de streaming, on dirait pas que c'est un sketch. Donc il y a peut-être ça aussi, hein, c'est clarifier un petit peu ce qui fait partie du sketch, ce qui ne fait pas partie du sketch, voilà. Et après on peut le trouver rigolo ou pas, sexiste, misogyne, etc. Moi j'ai trouvé que c'était le cas, et puis c'est tout, voilà. Après je pense aussi que ça soulève une autre question, un peu plus large peut-être pour The Event, c'est finalement avec un événement qui prend une telle ampleur, est-ce qu'ils vont pas en être à faire une espèce de modération, ou en tout cas avoir une charte, ou en tout cas voir un petit peu quel est le programme des 10 différents streamers durant l'événement. Voilà, tout ça pour avoir une ambiance qui est inclusive des différentes personnes avec leurs différences. Je veux dire, quand j'entends parler d'une activité de eye tracker où on passe en revue des streams de femmes dévêtues juste pour voir le regard pour suivre le regard des streamers qui regardent ça et voir s'ils regardent les boobs de ces streameuses là, je trouve ça assez gênant. Encore une fois, je ne peux pas décorréler le fait que moi, en tant que femme, je trouve ça dégradant d'objectifier la femme et de sexualiser la femme ainsi, voilà. Et là où je suis pas tout à fait d'accord, j'ai vu beaucoup de tweets qui disaient « Non, mais InoxTag, il joue un rôle. » Certes, tous les streamers jouent un rôle, c'est-à-dire que la personnalité que l'on montre dans un live n'est pas celle que l'on a en privé, tout à fait d'accord, mais on a une responsabilité auprès de son public sur l'exemple que l'on donne. Et quand finalement on a un streamer de la renommée d'InoxTag qui va en public dégrader, humilier, objectifier, sexualiser une femme, c'est un exemple qu'il donne à toute une génération. J'ai envie de vous dire, eh ben on est mal barré. Hein. Donc on est quand même pas encore dans une société très 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 ouverte, on va dire. Donc voilà. Donc certes il est jeune, mais en même temps voilà il a une responsabilité. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand Ultia lui a expliqué que bah, d'un point de vue féminin, on fait déjà face à cette sexualisation et objectification de la femme au quotidien. Donc en fait, le voir en live et de voir un collègue qui le fait, c'est quand même assez triste, quoi, assez navrant. Et donc évidemment, elle est en désaccord avec ça et elle doit pouvoir exprimer son désaccord. Donc voilà, donc il y a peut-être que ça, finalement, dans le futur, j'en sais rien, hein. Je ne suis pas du tout dans les petits papiers des organisateurs de The Event, et je pense qu'ils ont fait un boulot incroyable sur cette édition, mais peut-être finalement qu'avec ce succès, et c'est ça aussi, hein, c'est quand un succès acquiert une taille telle que finalement on ne peut plus avoir n'importe quoi qui arrive sur la plateforme, il faut avoir un minimum de contrôle ou de cadrage, finalement, et on peut être attristé par ça ou pas, et s'assurer que finalement les activités, les événements qui ont lieu durant ce live correspondent au ton caritatif de soutien qu'on veut mener, quoi. Ce qui m'a choqué, c'est le silence des autres, ouais. Ouais. J'avoue qu'il y a eu du temps avant que certaines personnes réagissent. Après, c'est vrai que c'est quand même compliqué, encore une fois. Tout événement en direct est très, très compliqué à gérer. Et dites-vous bien que, encore une fois, c'est pas pour dédouaner ou quoi les organisateurs. Je pense qu'ils étaient au courant, ils l'ont vu, etc. Mais bon, c'est arrivé à un certain moment. Ils avaient déjà 36 000 choses à gérer. Voilà, je pense qu'ils vont apprendre aussi de ce qui s'est passé. Voilà. Je suis pas sûre qu'Inoxtag est différent dans la vie privée et en stream. Je pense que si. Mais en tout cas, voilà, j'ai dit ça parce que c'est des excuses, entre guillemets, que j'ai trouvées sur Twitter, voilà, sur Inoxtag. Parce qu'en fait, en effet, on peut être en désaccord avec les techniques employées, ça veut pas dire qu'il faut condamner la personne en elle-même. Voilà, il faut différencier le travail de la personne, de l'être humain derrière aussi, quoi. À vouloir tout le temps faire de l'inclusif, est-ce qu'on va pas limiter la liberté d'expression? Mais bien sûr, Mr. Rayuba, c'est un équilibre à trouver. Mais en fait, en ayant ce genre d'activité, d'humiliation, etc., c'est toute une frange de la population que tu vas humilier, pour lequel tu vas encourager ce genre de comportement, tu vas encourager la misogynie, le sexisme et compagnie, et tu vas encourager le harcèlement. Là, c'est en gros, enfin bref, voilà, je veux pas non plus partir là-dessus, mais j'étais choquée, quoi. Et là où j'étais le plus choquée, finalement, c'est que finalement, quand on ose lever la voix contre ce genre d'action, en se disant « bah non, je me sens pas à l'aise, finalement, à applaudir quelqu'un juste parce qu'il a 400 000 viewers en humiliant une autre personne », je trouve pas que finalement, la fin justifie les moyens. Non, c'est pas parce que c'est pour lever de l'argent pour une association caritative comme Action contre la faim qu'on doit faire tout et n'importe quoi et qu'on va être exempté de ces actions. Non, certainement pas. Voilà, la liberté d'humilier, non merci, exactement. Donc voilà, donc vous pourrez retrouver de toute façon les extraits, etc., de tout ce qui s'est passé. Je pense que j'ai fait le tour à peu près de ce qui s'est passé. Donc voilà, il faut quand même pas oublier ce qui s'est passé de positif durant cet événement. Il y a eu de nombreux streamers qui ont une super ambiance, qui ont fait des choses créatives, inventives. Il y a eu, comme je vous disais, du sport, de l'artistique, des peintures, du karaoké, des discussions politiques aussi. Donc voilà, il y a eu vraiment tout un panel et toute la richesse que l'on peut retrouver sur Twitch. Et moi, ce qui m'a assez ébloui aussi, c'est comment pouvoir utiliser toute la méthode de gamification mise en place par Twitch pour justement motiver les dons pour bénéficier finalement une action et une association caritative. Je trouve ça vraiment très très sympa. Ali Moshi Moshi, tout ce que tu dis me paraît tellement logique et pourtant il y a quand même des gens pour affûter ça. Ouais, voilà. En fait, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est de partir dans les extrêmes, comme ce qui a pu se passer, et donc dans les condamnations définitives. Je pense qu'on doit pouvoir être capable de montrer son désaccord et d'en parler de manière posée, pour exposer son point de vue et pour expliquer aussi aux gens en quoi ça met mal à l'aise. Et je trouve que c'est ce qu'Ultia a pu faire quand Inoxtag est venu s'expliquer sur son live. Et qu'il a dit, ah bah oui, je me rendais pas compte que c'est comme ça que ça se passait. Et elle lui a dit, bah oui, Ultia, elle disait, bah oui, c'est pour ça que je t'en parle, finalement. Sous-entendu, c'est que tu ne connais pas le quotidien que les streameuses ou les célébrités féminines ont au quotidien, voilà, sur Internet. Et donc, c'est important d'en parler pour que finalement, on ait un environnement plus inclusif de tout type de personnes. Andrea était d'accord, c'est leur humour, leur délire à eux. Ultra, ok, c'est ultra cringe. Oui, j'ai vu Xeker, en effet. Tu fais bien de le mentionner, merci d'avoir partagé. En effet, j'ai vu une petite vidéo de La Sirène, donc l'actrice, la fameuse actrice mexicaine qui faisait partie finalement de l'interview et qui avait l'air d'être entre guillemets une victime dans l'espèce de live qui s'est déroulé avec Inoxtag. Elle s'exprimait pour dire non, mais vous inquiétez pas, moi je l'ai pas mal vécu, il n'y a pas eu de propos inappropriés, moi Inoxtag je le connais, c'est un mec bien. Je pense que voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on n'est pas en train de dire Inoxtag c'est un pourri, c'est pas le but de la discussion. C'est de dire qu'on était fondamentalement très très mal à l'aise avec ce qui s'est passé. Alors après qu'elles nous disent que c'était un sketch entre eux qui était prévu, c'est une chose, c'était absolument pas clair dans le live, honnêtement. Moi, j'ai vu les extraits, notamment du début, où elle arrive avec sa valise, elle se pose, et là, il y a des propos complètement inappropriés qui démarrent dès le début, etc., sous couvert de « on blague », le ton de « c'est une blague » n'excuse pas toute la misogynie et le sexisme qu'il peut y avoir. Après, elle peut dire « non, moi, je l'ai pas mal vécu », ça n'empêche que d'autres femmes... C'est quand même une sexualisation et une misogynie qui généralise l'humiliation des femmes sur Internet. Voilà, donc il faut aussi reconnaître. Elle a peut-être pas de problème avec ça, moi j'ai un problème avec ça. Voilà. Donc encore une fois, on doit pouvoir être capable d'être en désaccord ici sans que cela déclenche un harcèlement d'un côté ou de l'autre. C'est juste ça. Ultia lui a très bien dit qu'ils font ce qu'ils veulent en privé, mais là c'était devant des milliers de personnes de tout âge. Exactement. Exactement, et ça normalise l'hypersexualisation des femmes, l'objectification des femmes sur toute une génération qui va dire bah, c'est ok de faire ça aux femmes, en général. Quoi qu'on en dise, c'est ça hein, le message qui est passé. Et ça, c'est un problème, voilà. Donc voilà, je pense qu'ils se sont expliqués, et encore une fois, il faut retenir le positif de cet événement, il faut soutenir et empêcher le harcèlement, et soutenir évidemment les célébrités qui sont victimes, célébrités et personnes hein, qui sont victimes de harcèlement en ligne, voilà, parce qu'aucun harcèlement n'est justifié, hein, il faut voilà. Qu'on soit en désaccord, c'est une chose, mais aucun harcèlement n'est justifié, et voilà, il faut continuer à avoir des discussions constructives, on espère. Voilà. Donc j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec ce sujet, mais je pensais que c'était quand même hyper intéressant qu'on en discute. Et chapeau aux organisateurs de The Event et à la cinquantaine de streamers qui se sont mobilisés quand même pendant 3 jours, c'est énorme, mobilisés pendant 3 jours avec 25 heures de streaming consécutif maximum, voilà, c'est quand même énorme déjà avant de pouvoir dormir, voilà, ils se sont tous mobilisés pour rassembler et récolter ces dons pour l'association caritative, donc chapeau à eux d'avoir relevé ça et d'avoir explosé tous les records cette année. Voilà. On continue. Je vous propose de continuer avec un sujet plus léger, mais on reste un petit peu dans le gaming ici, vu qu'on va parler de Roblox. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Roblox, et qu'est-ce que c'est Roblox ? Roblox, c'est la plateforme, maintenant, en fait, on appelle ça carrément une plateforme de jeux vidéo et de création de jeux vidéo. qui finalement était inaccessible depuis jeudi et qui a duré 3 jours, hein, 3 jours de plateforme inaccessible pour Roblox. Alors ce qui s'est passé, c'est le CEO s'est expliqué, hein, finalement dimanche, et même la société s'est expliquée en disant que finalement il y a eu un bug qui s'est déroulé, que ça a pris beaucoup plus longtemps que prévu pour le corriger, puisqu'en fait c'était un bug un peu subtil qui était un peu compliqué à trouver finalement dans le système, qui était pas lié au nombre d'utilisateurs, parce qu'il y a eu pas mal de spéculations autour de ça, parce qu'il y avait une espèce d'opération marketing qui était en place qui a fait venir plus de personnes que prévu sur la plateforme, mais c'était pas lié à ça a priori, c'était plutôt lié à un bug, j'ai pas les détails exactement. Donc voilà, la plateforme est de nouveau accessible, mais c'est vrai que finalement Roblox, voilà, quand on a un succès pareil, pour vous faire la petite histoire, depuis mars 2021, 50 millions de nouveaux utilisateurs avaient rejoint le jeu, et maintenant il y a plus de 42 millions d'utilisateurs actifs journaliers qui officient sur la plateforme, à la fois pour jouer et pour développer des jeux dans l'univers Roblox. Donc c'est assez incroyable. La majorité des utilisateurs ont en dessous de 16 ans, mais du coup c'est une plateforme qui va permettre de créer des jeux, donc des user generated games, hein, des jeux créés par les utilisateurs carrément de la plateforme Roblox, et beaucoup d'entre eux, comme je disais, sont des adolescents qui ont pu faire et monétiser leur jeu et donc avoir des revenus juste en créant des jeux sur la plateforme. Donc, voilà l'histoire, le petit contexte de la success story de Roblox. Je ne sais pas s'il y en a dans la chatroom qui utilisent ou qui ont créé des jeux sur Roblox. J'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas l'impression que Roblox, ça vous perturbe beaucoup. Je lis un petit peu vos commentaires. Merci Babas pour ton abonnement. 10e mois d'abonnement. Trop cool. Merci à toi. Hop, je lis un peu. Ouais, merci à la communauté de ne pas avoir dérapé sur les sujets délicats. C'est clair, vous êtes top. Vous êtes top, top, top. Jamais touché à Roblox, nous dit Elf. Moi non plus, hein. Je vous le dis. C'est pas notre génération. Ah là là, dur. Roblox, non. Mais il y a une alternative Roblox française qui s'appelle Party Cube. Ah, c'est trop mignon, Party Cube. J'adore le nom. Je trouve ça trop bien trouvé, pardon. Mon fils, il joue beaucoup. Bah voilà. Mon fils de 9 ans, il joue aussi. Bon, bah voilà. On n'est vraiment pas dans la cible. J'ai essayé, mais impossible de trouver un jeu qui m'intéresse un minimum. J'ai pas compris. Il y a Electrab qui nous dit « J'y joue parfois avec ma fille. » Comme quoi ? Moi, j'y jouais avant. Ah ! J'ai joué à un Roblox un peu, mais c'est pas très français. Même si la Kameto a beaucoup streamé de Roblox ces dernières semaines. J'utilisais Roblox pour le boulot. Je leur ai signé un jeu de torture accessible aux plus jeunes joueurs et ils n'ont pas bronché. Du coup, plus de Roblox au boulot pour mes petits joueurs. Ah oui, tu m'étonnes, ouais. C'est un peu chaud, ouais. J'ai eu envie de regarder sans en prendre le temps, juste pour le côté, c'est très gros et pourtant notre génération passe à côté. Ouais, après c'est normal, hein, voilà, il y a des choses, c'est comme TikTok, on en a parlé plusieurs fois, c'est quelque chose qui tape pas dans notre génération. Après c'est intéressant de rester curieux, mais après, en effet, il y a une problématique de temps aussi, hein, des fois on a envie de faire plein de choses, mais on a juste pas le temps pour ça. Mais voilà, mais on voit quand même que voilà, il y a les enfants d'eux surtout, j'ai l'impression dans la chatroom pour lesquels ça marche pas mal pour Roblox. En tout cas, c'est bon, vous pouvez leur dire et être rassurés, je pense qu'ils l'ont vu d'ailleurs, que le service est de nouveau disponible. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire ? On enchaîne avec Tesla et ses superchargeurs. Donc Tesla, vous le savez, une des sociétés du géant de la tech Elon Musk, entre autres avec SpaceX et compagnie, etc. Et du coup avec Tesla, donc Tesla compagnie de véhicules électriques, voilà, principalement, qui est basée aux États-Unis, mais qui est également aussi disponible, les produits sont disponibles en Europe. Il y a les superchargeurs qui sont disponibles, les stations de chargement des véhicules Tesla qui sont disponibles également en Europe. En Europe, on a les Tesla Model 3, les modèles Y, hein, qui disposent d'un port de charge CCS Combo 2. Hein, voilà, qui n'est pas exclusif à Tesla. Ce qui est intéressant de savoir entre les États-Unis et l'Europe, c'est qu'en Europe, il y a un standard universel de chargement que les constructeurs, doivent respecter pour être en Europe. Et donc, du coup, Tesla, ici, a dû se plier à la règle et donc avoir un port de charge compatible CCS Combo 2 comme les autres véhicules présents en Europe. Voilà, ce qui permet de bénéficier de toutes les stations de recharge tierces qui sont disponibles, pas uniquement les stations superchargeurs de Tesla. Donc du coup, il y a d'autres réseaux qui existent, hein, en Europe pour pouvoir charger ces voitures électriques. Il y a notamment Unity et Total Recharge, par exemple, où une Tesla peut se rendre et profiter de la charge, mais c'est pas disponible dans l'autre sens, c'est pas réciproque, c'est-à-dire qu'un véhicule qui n'est pas une Tesla ne pourra pas, jusqu'ici, ne pouvait pas bénéficier du réseau de superchargeurs Tesla pour recharger son véhicule si ce n'était pas une Tesla. Donc voilà. Et donc là, potentiellement, ça va prendre fin. En effet, à partir du 1er novembre, donc hier, oui, c'est ça, hier, Tesla vient d'ouvrir son programme, justement, pilote aux Pays-Bas, qui permet d'ouvrir 10 stations de superchargeurs Tesla aux Pays-Bas, compatibles pour d'autres types de véhicules. Donc ça, c'est assez cool. Je trouve que c'est assez cool à la fois pour les utilisateurs, parce qu'en fait, tout simplement, ça va simplifier la vie quand on va vouloir recharger son véhicule, d'avoir accès à un réseau beaucoup plus large de stations de recharge de véhicules. Et du coup, par rapport à ça, si du coup on a un réseau beaucoup plus large de stations de recharge de véhicules, ça va peut-être encourager la transition vers des véhicules électriques. Voilà, hein, mine de rien, il y a ça qui était bloquant, finalement, acheter un véhicule électrique, mais se dire, bah, je vais tomber en rade, ou ça va être galère pour recharger parce qu'il n'y a pas des stations partout, bah, du coup, ça te fait reconsidérer, finalement, l'achat d'un véhicule électrique. Donc ici, je trouve qu'il y a vraiment un bénéfice global sur encourager le marché à changer et à transitionner vers de l'électrique. Évidemment, d'un point de vue business, c'est hyper, hyper intéressant parce qu'en fait, ça va permettre à Tesla d'ouvrir tout un nouveau pan de business où des véhicules qui ne sont pas Tesla vont pouvoir payer finalement l'achat d'énergie de recharge via leur station. Donc, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Dites-moi, hein, si je me trompe dans la chatroom, que j'ai raté un truc, mais moi, je trouve que c'est fondamentalement positif pour un peu tous les acteurs et le marché en général. Donc dites-moi si vous n'êtes pas d'accord et que j'ai raté un point négatif. Je suis restée bloquée sur le fait que le recyclage des batteries des voitures électriques est quasi inexistant, voire très polluant. Est-ce qu'ils se sont améliorés pour ça ou non ? C'est une bonne question, Copernicus. Alors là, j'ai pas d'informations sur le sujet ce matin, mais c'est une très très bonne question. En effet, il faut peser, en effet, l'aspect recyclage et l'impact écologique ne se résume pas juste à l'électrique, mais à tout le cycle de production et de recyclage de ce qui nécessite les batteries, les véhicules et compagnie. T'as tout à fait raison. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui et honnêtement, j'ai pas l'information. Ça coûte combien le plein d'une Tesla ou d'une voiture électrique en général ? Ben justement, j'ai quelques chiffres à vous communiquer pour vous donner une idée. Voilà, donc Tesla, par exemple, propose un tarif de 57 centimes d'euros le kilowatt-heure aux voitures non Tesla. Donc ça, 57 centimes d'euros pour les non Tesla chez les stations Tesla, et ça sera 0,36 euros, donc 36 centimes d'euros pour les propriétaires de Tesla. Donc il y a quand même une sacrée différence, mais c'est aussi un argument marketing pour encourager les propriétaires qui n'ont pas une Tesla de shifter vers un modèle Tesla hein, potentiellement. Donc voilà, ça reste un montant, un tarif moins cher que chez le concurrent Unity. Hein. Parce que pour justement vous donner une idée, chez Unity, même quand vous ne faites pas partie d'un programme spécial, parce qu'après ils ont des programmes sûrement de fidélité, etc., ce genre de choses, en fait, il faut compter 79 centimes le kilowattheure pour pouvoir recharger son véhicule électrique. Et chez l'autre acteur Total Energy, les tarifs proposés varient selon le type de charge, c'est-à-dire la vitesse. C'est-à-dire on va avoir du 35 centimes le kilowattheure pour le 43 kilowatts. On va avoir 50 kilowatts à 0,55... pardon. Ah oui, non. On a 35 centimes pour le kilowattheure pour les 43 kilowatts et 50 kilowatts. Donc AC, DC, a priori. Je ne sais pas exactement à quoi ça fait référence. Ça doit être des normes. Et on est à 55 centimes d'euros le kilowattheure pour le 175 kilowatts. Voilà. Et on n'a pas encore d'offre 350 kilowatts aujourd'hui. C'est cher le kilowattheure, ouais. Je sais pas, j'ai aucune idée. Ah oui, à CDC, joli Sir Newt. J'avais même pas capté. Bien, bien vu. Voilà, en tout cas, pour ça. Donc, c'est une première expérimentation hein, qu'il est en train de faire. Comme je vous le disais, c'est limité aux Pays-Bas dans un premier temps, parce que l'Europe est un terrain favorable à ce type de stratégie, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, parce que là, les ports de charge sont propriétaires. Voilà, donc là, encore une fois, moi, je pense que c'est très, très bien en Europe qu'on ait ça. Ça encourage la concurrence aussi. Et donc, pour l'instant, ça va se dérouler uniquement aux Pays-Bas et uniquement sur 10 stations. Et je pense qu'après, on verra, hein, évidemment. Au total, juste pour vous donner une idée, le réseau Tesla Supercharger en Europe compte... donc, je ne sais même pas si c'est en... oui, c'est ça, c'est en Europe. Compte 700 stations réparties sur plus de 16 pays pour un total de 7300 superchargeurs, puisque du coup, il y a plusieurs superchargeurs par station, dont 55 stations ou 450 bornes déployées rien que sur le dernier trimestre. Parce qu'évidemment, ils sont en accélération ici pour avoir un réseau de plus en plus maillé et un maillage beaucoup plus serré. Voilà. Dans les pays les mieux desservis, il y a l'Allemagne avec 111 stations et la France avec 99 stations pour un total de 1000 points de recharge. Donc, c'est pas mal. Voilà, en tout cas, pour Tesla. Je trouve ça particulièrement intéressant. Oui, tout à fait. Il y a Unity qui fait payer autant, en effet. Ils font payer autant parce que il faut une norme particulière pour compter au kilowattheure. Mais après, ça va peut-être évoluer. Ça va peut-être évoluer, mais pour l'instant, leurs bornes ne sont pas compatibles pour décompter exactement l'énergie, la quantité d'énergie au lieu du temps. Exactement. Bref, on continue, et cette fois-ci, on va parler brièvement, on va faire un tour du côté de Pinterest qui développe sa Pinterest TV. Et oui, c'est pas une blague, tout simplement Pinterest redouble d'efforts sur la stratégie de e-commerce ici, avec notamment une série de programmes qui va être disponible sur Pinterest TV, qui va débuter le 8 novembre prochain. Chaque épisode va mettre en scène un créateur de la plateforme Pinterest et va être disponible du lundi au vendredi, à 6h du soir, enfin de l'après-midi, sur l'application iOS et Android. Le programme va couvrir différents sujets chaque jour, hein. Ça peut aller de la mode, de la beauté, de la maison, de la décoration, à la nourriture, etc., enfin de l'alimentation. Et des recettes. Voilà, ça peut être plein de choses. Le vendredi, le show sera un peu particulier puisque ça sera un peu comme le... Mince, j'ai oublié le nom de l'émission du mercredi, Jérôme.
Quoi ?
Le nom de l'émission le mercredi, c'est quoi déjà ?
Le
Twitch Chacha. Voilà.
Mais comment tu peux oublier le Twitch Chacha ?
Comment je peux oublier ?
Juste après Z Event, c'est l'émission la plus importante de Twitch.
Juste après le Z Event, oui, c'est juste l'émission la plus importante après le Z Event. Tout à fait. On est modeste chez Naotech.
Donc voilà. Le Twitch Chacha, on harcèle les prix.
Dans le Twitch Chacha, on harcèle les prix. Je ne sais pas si vous avez entendu correctement, Jérôme, donc je répète. Mais voilà, dans le Twitch Chacha, on harcèle les prix. Pas mal. Marion a oublié le Twitch Chacha. Il y a tout le monde qui s'offusque dans la chatroom. Toutes mes excuses si j'ai heurté les sensibilités de chacun. Donc voilà. Donc en gros, le vendredi, ça sera sous forme de télé-shopping, de Twitch-achat sur Pinterest, voilà, avec ce petit programme exclusif. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Voilà, donc en gros, c'est ça, ça va se retrouver, donc il y aura une petite tab. Donc chaque épisode va être enregistré, sera disponible depuis l'application Pinterest via l'icône TV qui sera disponible dans le coin en haut à gauche de l'application Pinterest. Voilà, donc voilà, vous pourrez le retrouver à cet endroit-là. Donc je suis pas sûre que ça sera disponible en France, honnêtement, j'en doute. Parce que c'est une partie encore qui est en cours d'expérimentation chez Pinterest. Et évidemment, produire du contenu ou même le sous-titrer pour que ça soit accessible à des personnes qui parlent le français, bah, c'est pas forcément évident. Je pense que dans un premier temps, ça va être disponible uniquement dans les pays anglophones. Mais voilà. Voilà pour la petite news qui concerne Pinterest. Et on enchaîne justement sur cette notion de programme ou de live enregistré, ce genre de choses. Donc là, on va parler des stories sur Twitter. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est une petite news, mais entre guillemets, Twitter va vous permettre d'enregistrer les spaces. Vous savez, ces espèces de room audio que vous pouvez faire chez Twitter qui va permettre donc de les enregistrer et de poster des liens de partage pour tout simplement réécouter les enregistrements. Ça sera disponible sur iOS et Android. Voilà, les enregistrements sont disponibles sur la plateforme iOS et Android. Et ça sera déployé à de plus en plus de personnes dans les semaines à venir. Et donc, comment ça se passe, tout simplement ? C'est que lorsqu'on crée un Twitter Space, donc cette room audio, le créateur, l'hôte de cette room audio, va pouvoir choisir d'enregistrer ou non la story, la room audio. Donc une fois qu'il va cliquer et va faire son choix, s'il a choisi d'enregistrer, ça va permettre de l'afficher tout simplement sur l'écran. Il y aura une petite notification comme quoi la room audio est en train d'être enregistrée. Donc comme ça, chaque participant ici sera averti pour plus de transparence évidemment et de respect des participants. Donc c'est bien, bien foutu. Twitter va garder une de ses copies de ses enregistrements Spaces jusqu'à 120 jours après justement l'enregistrement. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus ? Mais c'est vrai qu'en fait c'est un pas de plus vers facilement transformer finalement les audio rooms ou les Spaces en podcast. Podcast, ces émissions audio enregistrées, disponibles quand vous le voulez. La seule limitation ici, c'est sur la qualité sonore. Puisque finalement, en fait, comme on stream et on peut faire ces rooms audio uniquement depuis le smartphone, depuis iOS et Android, on n'a pas souvent ou pas le réflexe forcément d'avoir un équipement adapté pour optimiser la qualité du son, ce qui est assez crucial pour le confort d'écoute d'un podcast. Après, il y a des solutions qui existent et finalement, ça va peut-être ouvrir la porte à professionnaliser un petit peu ça et monter en gamme en termes d'équipement lorsqu'on veut faire ce type de story. À voir hein, si ça avait généré quelque chose là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi que ces enregistrements de Spaces, les créateurs vont pouvoir facturer ou en tout cas demander de l'argent tout simplement pour leur accès. Donc là aussi, ça va permettre de monétiser finalement facilement cette création de contenu. Donc à voir finalement si les créateurs se l'approprient et l'utilisent. Ça sera intéressant à suivre. C'est cool de réexploiter l'audio, ça change vraiment certains usages. Ouais, je trouve ça assez intéressant, tes dénuèves. Je suis d'accord avec toi. Petite pensée pour Clubhouse, petit ange parti trop tôt. J'y piffe, je trouve que tu l'enterres très très vite, Clubhouse. Je suis pas sûre que ça soit carrément détruit ou arrêté, hein. Ça continue encore, hein. J'ai pas d'actu sur les nombres d'utilisateurs actifs mensuels, mais ça existe encore. Est-ce que la fonctionnalité est déjà lancée ? Écoute, a priori, oui. Mais ça va se déployer au fur et à mesure, tu sais, sur le parc utilisateur. Donc, c'est normal si tu n'y as pas forcément accès aujourd'hui. Voilà. C'est souvent le cas quand les produits déploient au fur et à mesure les fonctionnalités. Voilà. Voilà donc pour la petite news Twitter, en tout cas. On termine avec une petite vidéo de Boston Dynamics. On prend des nouvelles de la société qui développe ces robots terrifiants, vous savez, avec les spots, les espèces de chiens mécaniques qu'on peut voir, qui sont capables de courir, de sauter, de vous attraper. Voilà, on part un peu dans la thématique Halloween avec ce genre qui fait de choses qui fait un peu peur. Et donc voilà, on prend des nouvelles un peu de Boston Dynamics qui nous offre une nouvelle vidéo de démonstration et de danse de leur fameux robot Spot. Cette fois-ci, robot qui va être mis en scène en reprenant les pas de Mick Jagger, ici, donc chanteur des Rolling Stones, notamment sur le titre. Le titre Start Me Up, voilà, tout simplement sorti en honneur de l'anniversaire des 40 ans de l'album Tattoo You, qui est sorti en 81, hein, voilà, et donc on a cette reprise de Start Me Up par le robot Spot de Boston Dynamics, et aussi qui donne un petit hommage émouvant, évidemment, au batteur des Stones qui nous a quitté récemment, Charlie Watts. Voilà, donc du coup, sans plus tarder, je vais vous montrer un petit extrait, parce que j'ai un peu peur de me faire un peu ban si je vous montre tout, et je vais même bloquer le son. Non, de toute façon ça bloque le son obligatoirement, mais je vais vous montrer hop, un petit extrait, et je vous montre juste pas complètement l'écran. Et donc, vous voyez, vous avez un split screen, finalement, entre le clip original des Stones et le clip de Boston Dynamics avec le robot Spot, où vous avez justement, on venait voir le batteur, et on a donc chaque robot Spot qui va reprendre le rôle et les mouvements des différents protagonistes du clip. Et donc, on a vraiment ce genre de danse. Et donc, je vous montre un peu le début, peut-être, parce que c'est un peu le plus frappant, là, le début de la chorégraphie ici, où on a le robot Spot qui s'en sort plutôt pas mal et qui va devoir adapter évidemment ses mouvements de danse parce qu'il n'a pas de bras, évidemment. Et donc, du coup, je trouve que ça marche vraiment, vraiment bien. Et même, il y a le cadrage qui fonctionne bien, ce genre de choses. Donc, petit clin d'œil assez rigolo. Voilà, c'était pour le petit moment rigolo du matin. Voilà. Là-dessus, écoutez, j'espère que les ActuTech vous ont plu ce matin. Moi, j'ai trouvé qu'on avait des sujets intéressants, donc je suis ravie d'avoir pu en discuter avec vous. Ces robots vont enclencher Skynet, on est foutus, nous dit le tutoriel. Là-dessus, je vous propose de passer tranquillement à la petite... cerise sur le croissant. Voilà, une toute petite. Voilà, et on continue du coup sur la petite note creepy Halloween. En parlant, je voulais vous rappeler du coup que la saison 3 de la série What We Do in the Shadow est sortie et disponible. Donc pour ceux qui ont accès à Canal+, vous avez accès du coup à cette série saison 3 déjà, pour cette série complètement déjantée sur un espèce de documentaire, de faux documentaire, puisque pour vous rappeler un petit peu le pitch de la série What We Do in the Shadows, c'est un espèce de faux documentaire. Vous suivez une équipe de tournage qui va filmer le quotidien de vampires qui résident à Staten Island, déjà, le coin un peu ringard, comme les gens s'amusent à le pointer du doigt, donc qui vivent depuis des siècles à Staten Island, et qui avaient pour mission de conquérir, du coup, les États-Unis avec comme point de départ, justement, Staten Island. Et donc, évidemment, on a donc ici quatre vampires, vous les voyez derrière le titre, je vais peut-être essayer de vous montrer une tête. Voilà, leur tête sans avoir le titre ici. Mais on a donc Nandor, Espèce de chef guerrier, voilà, qui a conquis à 100 son territoire, etc. Donc complètement ici à droite. Le second, juste à côté de Nandor, on a Colin qui lui est un vampire d'énergie. Donc en fait, il va pomper, il va pas se nourrir de sang, mais il va se nourrir d'énergie des gens en étant particulièrement chiant. Et donc, il va pomper l'énergie en saoulant les autres. Donc, déjà, rien que ça, c'est hilarant. Voilà, comme pitch. C'est pour ça qu'il a une cravate et qu'il est habillé comme un homme d'aujourd'hui, mais assez pénible. Ensuite, on a la vampire à côté avec son partenaire aussi, qui sont excellents. Et puis, on a leur familier, finalement, c'est-à-dire l'humain que vous voyez au-dessus des vampires. Vous voyez, il n'a pas de dents pointues, donc c'est encore un humain. Et ce qu'on appelle un familier, c'est-à-dire un serviteur de vampire qui espère finalement, en les servant, être transformé un jour en vampire et faire partie de leur petit club. Voilà, et donc c'est une série que moi j'aime beaucoup, c'est disponible sur Canal+, pour ceux qui y ont accès. Et donc c'est une série qui a été créée par Taika Waititi, hein, réalisateur que l'on connaît notamment pour The Mandalorian. Non, pardon, pas The Mandalorian, attendez. Si, il a fait partie des différents réalisateurs de The Mandalorian. Il a fait également... le film de What Do We Do in the Shadows, parce qu'en fait, avant d'être une série, c'était également un film. Il va faire un film Star Wars, je crois aussi. Il a fait Thor Ragnarok, excellent en termes de démonstration de pop culture, moi, qui reste, je pense, mon Thor préféré. Voilà, donc voilà, donc quelque chose que j'avais beaucoup beaucoup aimé, et donc réalisateur de What We Do in the Shadow avec Jemaine Clement que moi j'adore, puisque c'est un des protagonistes du duo de Flight of the Conchords, série d'origine néo-zélandaise hilarante sur un duo de musiciens qui arrivent à New York, de musiciens néo-zélandais qui arrivent à New York et qui essayent d'avoir du succès, et donc on retrouve finalement cette clique et cet humour qui circulait dans Flight in the Conchords, disponible d'ailleurs pour info sur OCS. Pour ceux qui ont accès sur OCS, la série Flight of the Conchords, qui a vieilli hein, depuis, est disponible sur OCS avec un épisode excellent tourné par Michel Gondry, hein, pour les intéressés. Voilà, et donc on retrouve un peu tous les acteurs qu'il y avait dans cette série, on les retrouve à un moment donné dans What We Do in the Shadows. Il y a beaucoup, beaucoup de guests dans What We Do in the Shadows, ne serait-ce que dans la première saison où on va retrouver plein de vampires célèbres à un moment donné. Voilà, je vous en dis pas plus. Rien que d'y penser, ça me fait rire. Voilà, donc du coup, dans cette période d'Halloween, comme moi, j'aime pas trop ce qui fait peur, mais du coup, j'aime beaucoup ce qui fait rire et peur. Voilà, donc complètement décalé cette série. Si vous aimez un peu l'humour décalé, n'hésitez pas à vous tourner vers cette série. Oui, Jojo Rabbit aussi, Taika Waititi est le réalisateur de Jojo Rabbit, excellent film aussi, j'ai pif. Merci de l'avoir partagé, j'avais zappé. T'as tout à fait raison. Faut des abonnements partout, c'est pénible à la longue. Je suis d'accord avec vous. Hélène Sarr et 69, c'est vrai que nous, on a fait ce choix-là d'avoir finalement des abonnements un peu partout, ce qui, on est tout à fait conscient, n'est pas gérable pour chacun. Hein, et voilà, clairement. Mais du coup, voilà, pour ceux qui y ont accès, n'hésitez pas. C'est très, très rigolo. On y revoit des vampires de Buffy. C'est pas ceux qui m'ont marqué, mais je crois pas. Je crois pas qu'on voit Spike. Je crois pas. Je suis pas sûre. J'ai un doute. Mais voilà, il y a beaucoup de guests. Bonne série, en effet, humour à la The Office dans l'univers vampire. Ouais, c'est pas faux, Sildarul. C'est pas faux, ouais. La petite référence à The Office. C'est... En effet, je le vois aussi. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu, cette série, qui ont aimé, ou certains qui l'ont vu, qui n'ont pas aimé? Ça m'intéresse aussi. Et après, je vous laisse à votre journée. Donc, je rappelle, ouais, c'est sur Canal+, hein. Je vais voir si j'ai d'autres visuels rigolos à vous montrer. Voilà, ça vous donne un peu le ton de la série, quoi. Ne serait-ce que les têtes et les costumes, c'est quand même assez génial, quoi. Je trouve ça, mais vraiment. Il joue quand même super, super bien. Voilà. Il y avait un film tout à fait, Garou-Gari, tout à fait. Moi, j'ai commencé avec le film, et dans le film, il y a Jemaine Clément et Taika Waititi, justement. Attendez, je vais vous montrer le film. Enfin, je ne vais pas vous le montrer, mais. Qui s'appelle de la même manière, hein, qui a le même nom. Hein. Et donc, en fait, ils ont juste fait une alternative. En série. Donc voilà la, hop, voilà l'affiche du film. Et tout simplement, donc on a Taika Waititi qui est tout en haut à droite avec la veste bleue. Son personnage est quand même assez rigolo. Et on a Jemaine Clément qui est tout en haut à gauche. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai le tout sélectionné qui apparaît. Mais donc voilà, les deux personnes tout en haut sont les réalisateurs du film et les réalisateurs et producteurs de la série. Voilà, donc ils sont tout en haut. Et donc quand je vous parlais de Flight of the Conchords, hop, vous pouvez retrouver du coup Jemaine Clément là qui est à droite du coup. Donc pour ceux qui reconnaissent, on a Jemaine Clément à droite que l'on retrouve à gauche ici. Et Taika Waititi. Voilà. Donc je suis absolument fan. Hein. Pas de, complètement biaisé sur, sur ces programmes-là. Donc tout ce qu'ils font, j'adore. Enfin, je pars avec un biais positif. Donc voilà, je suis un peu ma fangirl. J'ai regardé sur tes conseils et j'ai adoré. Ah cool, la Brique 76, ça fait trop plaisir. Contente de, du coup t'avoir fait découvrir un truc qui t'a plu. Bonjour, ma première fois ici, vu les rediffusions, je risque pas d'être déçue. Cool, bienvenue à toi, Allo Wounette. Là, c'est un peu la fin de l'émission, mais ça fait plaisir que tu nous rejoignes en live. Excellente série, nous dit Big Fang. Ah, bon, en plus, tu t'appelles Big Fang, donc autant te dire que tu es dans la thématique, quoi. Pour la ref, il y a l'acteur qui faisait le patron dans IT Crowd. Ah oui, bien vu, c'est vrai. Les trois saisons sont dispo, ouais, tout à fait, tout à fait. Les trois saisons sont dispo sur Canal+, donc tu pourras faire un rattrapage. Pas de crainte là-dessus. Et donc, du coup, tu pourras avoir tous les caméos excellents de la série. Sur ce, écoutez, il est 9h11. Je vous souhaite une excellente journée. C'était un plaisir de vous retrouver. Moi, je vous retrouve du coup la semaine prochaine. Et sinon, vous retrouvez Guillaume demain matin à 8h. Sans faute. Très bonne journée à tous. Je vais voir si on fait un petit raid avant de se quitter quand même. Hop, je vais actualiser la page et puis on va voir qui est en live. Pourquoi ça fonctionne pas? Twitch, c'est pas le moment. Qu'est-ce qui se passe? Petit plantage de Twitch en direct. Hop. Est-ce que je vais y arriver? Donc on essaye. Gestionnaire de stream. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Au secours. Est-ce que j'y... Ah. Il y a un gros lag, j'ai un lag en live ou pas là? Non? Bon, c'est bon. Ça a l'air d'être revenu, c'est juste super lent. Eh bien écoutez, il y a Pépipin. Donc on va faire le petit moment artistique. pour commencer tranquillement la journée. Voilà. Hop. Ah ouais, j'ai un gros décalage, hein. Allez, bonne journée à tous et à bientôt.